Salut les rebelles intelligents. Donc, je suis toujours ici à Macao où il y a des monuments absolument incroyables comme ce casino de 250 mètres de haut là, ou des architectures absolument hallucinantes qui se mélangent avec la vieille ville portugaise qui comprend des rues où parfois on a vraiment l'impression de se retrouver à Lisbonne. Et du coup, tout ce foisonnement architectural, ça m'a fait penser à mes investissements immobiliers. Et je me suis dit que ça serait intéressant de répondre à une question qu'on me pose parfois, à savoir, puisque j'avais posté sur cette chaîne une vidéo de l'immeuble que j'ai acheté près de Montréal, des marches que j'avais fait, etc. Et on me pose souvent la question, on m'a dit, mais Olivier, comment t'as fait en tant que non-résident canadien et en tant que non-canadien tout court, pour obtenir un prêt bancaire, puisque j'avais montré que j'étais allé à Desjardins, etc. Donc du coup, je vais répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas toujours facile, voire même c'est pas souvent facile, de trouver un prêt bancaire dans un pays dont on n'est ni citoyen, ni le résident. J'avais essayé par exemple aux États-Unis d'avoir un prêt pour investir en l'immobilier là-bas et c'était impossible d'avoir un prêt en dollars. Donc du coup, j'avais juste pris un prêt en euros dans ma banque en France pour acheter le bien. Alors, c'est pas quelque chose que je recommande parce que du coup, vous vous exposez à un risque au niveau du taux de change. Voilà, c'était pas sur des sommes importantes, donc je l'ai fait et au final, j'ai remboursé le prêt par anticipation et voilà. C'est pas facile et c'est toujours mieux d'avoir un prêt dans la monnaie du bien dans lequel vous allez investir, c'est évident. Le gros intérêt du Canada aujourd'hui, c'est justement, il y a des banques comme Desjardins qui sont ouverts au fait de prêter à des non-résidents, non-citoyens. À une condition, c'est que vous devez quand même faire un apport qui est important, en l'occurrence de 35% au Canada. Alors ça peut paraître énorme, il faut quand même se rendre compte qu'au Canada, les prêts avec 100% ou 105% d'apport pour payer le notaire, ça n'existe pas. Même les Canadiens de souche qui vivent au Canada depuis qu'ils sont nés, ils doivent apporter 20%, c'est comme ça, c'est la règle. Donc il y a juste 15% de données supplémentaires. Alors par contre, c'est vrai que c'est pas forcément une somme négligeable, on est d'accord. Mais c'est quand même intéressant parce que vous avez l'effet de levier de la banque sur un bien qui est situé dans une zone légale et monétaire différente. Et je trouve que c'est une diversification intéressante. C'est pas pour autant qu'il faut se jeter tête baissée là-dedans, je vais en reparler. Mais donc du coup, chez Desjardins, ils sont ouverts sur le sujet parce que comme je discutais avec le banquier Desjardins, il m'a dit, bien, de toute façon, voilà, tu fais 35% d'apport. Dans le pire des cas, imaginons, voilà, tu payes plus, tu rembourses plus ton prêt, on doit saisir le bien et on doit le vendre sur le marché. C'est impossible que le bien il se soit déprécié 35% par rapport à l'achat. Donc dans tous les cas, on est gagnant, on sait qu'on va récupérer le montant de notre prêt. Il n'y a pas de souci particulier. Et c'est vrai que c'est une démarche logique et je ne comprends pas pourquoi dans d'autres pays comme les États-Unis ou autres, ils ne l'ont pas. Après aussi, ce qui ne dit pas tout de suite, mais qu'on apprend quand même assez vite dans le processus, c'est qu'ils demandent un dépôt de l'équivalent d'un an de loyer qui va être bloqué pendant 1 à 2 ans, typiquement c'est un an et demi, pour être sûr que voilà, vous n'êtes pas un rigolo, que vous n'allez pas vous barrer du jour au lendemain. Donc ça augmente encore l'apport nécessaire, même si bien sûr vous allez récupérer la somme au bout d'un moment. C'est juste pour montrer que vous payez régulièrement votre prêt, que les loyers sont encaissés sans problème, bref, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et finalement, c'est comme pour tout, quand vous êtes débarqué dans un nouveau pays où il n'y a personne qui a d'historique avec vous, bah, il faut montrer un petit peu de patte blanche, il faut montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous n'êtes pas un petit voyou qui essaie de fuir son pays parce que en gros, il n'y a plus personne qui veut faire de business avec lui. Mais c'est toujours pareil, c'est votre premier investissement, il y aura ce genre de conditions qui sera mis en place, mais au fur et à mesure que vous aurez de l'historique avec la banque, peut-être que vous allez faire d'autres investissements et tout ça, bah, tous ces prérequis vont pouvoir être levés et vous allez avoir davantage de marge de négociation. Je pense qu'il est possible de négocier cet apport de 35% à la baisse pour les futurs investissements. Ensuite, vous avez plusieurs avantages dans le fait d'investir au Québec. Au-delà du fait que c'est une diversification dans la zone monétaire, dans la zone légale et même dans l'économie. Et puis même le continent, on pourrait dire. C'est que le dollar canadien est extrêmement faible en ce moment, donc c'est intéressant de profiter du taux de change. Ensuite, ça vous fait une occasion supplémentaire d'aller au Québec, qui est toujours, moi, je trouve toujours très très sympa d'aller visiter, mais bon, ça clairement, on est d'accord, c'est complètement annexe. Mais surtout, le gros avantage, c'est qu'au Canada, existe un système qui n'existe pas en France et à ma connaissance, pas en Europe, mais je peux me tromper sur les autres pays européens, c'est que vous pouvez avoir un véritable effet boule de neige sur vos investissements immobiliers. Et on en avait parlé notamment avec l'interview de Stéphanie Milo, qui à 44 ans a 97 appartements au Québec. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et notamment, quel est le mécanisme qu'elle a utilisé pour avoir un tel empire immobilier aussi jeune? Eh bien, tout simplement, en fait, au Québec, vous achetez, admettons, un immeuble 1 million de dollars canadiens. bah, au bout de quelques années, il aura pris de la valeur. Il vaudra 1 100 000, par exemple. Et vous, pendant ce temps où il aura pris de la valeur, vous aurez remboursé une partie du prêt. Ce qui fait que, admettons que vous deviez 700 000 $ sur le prêt sur cet immeuble, bah, admettons qu'au bout de quelques années, donc l'immeuble est à 1 100 000 et vous avez remboursé, allez, on va dire n'importe quoi, 100 000 $. Ce qui fait que bah, vous avez 200 000 $ de gap par rapport au prêt que vous avez pris initialement. C'est-à-dire que vous avez remboursé 100 000 $ et que le bien a pris 100 000 $. Du coup, vous avez 200 000 $ dans ce prêt que vous allez pouvoir utiliser pour faire l'apport dans votre nouvel immeuble. Donc, que ça soit bien clair, vous pouvez aller voir la banque en disant « Voilà, mon bien a pris 100 000 $ depuis la fois où je l'ai acheté. Moi, je vous ai remboursé 100 000 $. Donc, j'aimerais que vous me donniez 200 000 $ avec les mêmes conditions du prêt que je suis en train de rembourser. Vous le rajoutez à la somme que je vous dois, tout simplement. Et je vais utiliser ces 200 000 $ comme apport pour un nouvel immeuble. » Donc, vous comprenez ? Donc là, du coup, votre apport de 35 ou de 20% si vous arrivez à bien négocier, il se transforme en apport de zéro. Alors, pas vraiment parce que c'est un prêt de la banque, mais vous comprenez, à ce moment-là, on peut avoir un prêt à 100% de la banque en se débrouillant bien comme ça. Alors, bien sûr, comme tout effet boule de neige de ce type-là, bah, tout effet de levier, il faut bien réfléchir à tout, il faut bien voir les conséquences. Et je ne vous recommande pas de faire ça tout de suite parce que clairement, si vous faites une bêtise à ce moment-là et que vous vous retrouvez incapable de payer les remboursements, ça peut véritablement faire effet de levier sur tout et vous pouvez retrouver complètement ruiné en un rien de temps. Mais quand c'est bien fait, bah, ça permet à des gens comme Stéphanie Milo de bâtir des empires comme ça à partir de rien très très vite puisqu'elle a démarré dans l'immobilier à 22 ans. Vous voyez, ça lui a pris 22 ans justement pour avoir 97 appartements. Alors certes pas à 100% puisqu'elle rembourse toujours, mais quand même. En tout cas, si vous voulez investir dans l'immobilier au Canada, faites pas ça n'importe comment. Il y a des spécificités qui existent dans ce pays qui n'existent pas ailleurs. Et notamment, je vous recommande fortement de suivre la formation de Stéphanie Milo qui explique ça. Ce qui est bien dans la formation de Stéphanie, c'est qu'elle envisage les deux cas. Le cas où vous êtes un résident canadien et le cas où vous êtes non résident. Et dans ce cas-là, comment faire ? Je vous ai mis le lien là, quelque part dans la description, dans le commentaire juste en dessous, pour que vous puissiez aller voir cette formation de Stéphanie. Et vous, les rebelles intelligents, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'investir dans l'immobilier à l'étranger, dans un pays où vous ne résidez pas ? Si oui, eh bien partagez-le dans les commentaires et partagez un peu votre expérience, que c'était une bonne expérience ou pas, ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur ? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.